Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour à tous. Je suis Claude Cara. J'ai créé le podcast des amis de la fête de la gastronomie en décembre 2018. Ce podcast est le tout premier dédié à la fête de la gastronomie Goût de France, qui est un événement national et international. Et je vous remercie beaucoup de nous écouter et du temps que vous prenez pour cela. Que va-t-on trouver dans ce podcast ? Des interviews de porteurs de projets pour la fête de la gastronomie, des chefs et chefs au féminin et masculin de cuisine, plus largement toutes les personnes qui sont de près ou de loin dans la cuisine et la gastronomie. En clair, les personnes qui nous nourrissent. Et vous tous qui souhaitez nous parler de votre fête de la gastronomie, de celle que vous pourriez faire, n'hésitez pas. Ce podcast vous est ouvert et j'aurai grand plaisir à vous y recevoir. En tout cas, des personnes passionnées qui ont envie de partager leur passion. Ce podcast fait partie de l'association des amis de la fête de la gastronomie que j'ai créée en mars 2017 et dont l'objectif est de faire connaître la fête de la gastronomie Goût de France au plus grand monde et que cette fête populaire arrive dans chaque foyer, dans chaque cuisine, ce qui n'est pas encore le cas. Dans cet épisode numéro 8, je reçois Madame Sonia Sadi, gastronome. Sonia nous explique ce qu'est pour elle être gastronome. Elle nous parle de nouvelles saveurs, d'innovations en cuisine, de la manière dont elle prépare un repas pour ses invités. Évidemment, Sonia nous raconte ses fêtes de la gastronomie, sa fête de la gastronomie idéale, avec des propositions très très intéressantes, vous pourrez en juger. Sonia nous parle aussi des marchés sur lesquels elle va, des produits qu'elle trouve, des produits qu'elle ne trouve pas. À cette occasion, je parle de l'action de l'association lyonnaise Aime ton marché, dont j'ai mis le lien internet pour aller sur leur site. Je parle également de l'association C'est Juste Paris. J'ai également mis l'adresse du site internet que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Cette association C'est Juste et C'est Juste Paris a été créée par mon ami Pierre Priolet. Bien sûr, il y a la séquence recettes de Sonia. J'en profite pour parler des produits que j'aime beaucoup, comme la crème fraîche de brebis, le beurre de brebis et le beurre de chèvre. Eh oui, ça existe. Nous avons aussi quelques anecdotes sympathiques autour des fans de carottes. Ça, c'est rigolo. Sonia nous indique ce que nous pouvons tous faire pour inciter à cuisiner plutôt que d'acheter des plats prêts à manger, surtout avec les enfants. Nous parlons aussi de ces métiers dits manuels. Je parle du concours Handy Cook qui s'est déroulé à l'école de Paris en mars dernier. L'école de Paris, c'est l'école de Paris des métiers de la table. Notre échange avec Sonia a été un très bon moment de partage. Faites-nous vos commentaires sur votre plateforme d'écoute ou sur nos adresses mail que j'ai mises sur les notes de l'épisode. Donc je rappelle la mienne qui est un petit peu plus simple, claudecara@gmail.com. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur la page Facebook du podcast Les Amis de la Fête de la Gastronomie. Je vous fais quelques annonces à la fin de notre épisode. Restez à l'écoute. Bon, c'est bien tout ça. Je commence à avoir l'eau à la bouche. Rejoignons mon invité. Mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour. Aujourd'hui, pour cet épisode 8, je reçois
Sonia Sadi, gastronome.
Sonia, gastronome, c'est quoi être gastronome pour vous, Sonia ?
Pour moi, c'est aimer la cuisine, c'est aimer le partage de la cuisine, c'est découvrir des nouvelles saveurs, faire partager ce que l'on aime aux autres, leur montrer, leur faire découvrir toutes les nouveautés dans la gastronomie, dans les nouveaux restaurants, dans les nouvelles saveurs, dans les un peu partout quoi. C'est surtout faire montrer, faire aimer la cuisine en règle générale.
Oui, vous avez dit des choses qui m'intéressent beaucoup. Vous dites nouvelles saveurs. Alors ça m'intéresse beaucoup. À quoi pensez-vous?
Nouvelle saveur, parce qu'il y a toujours des nouveaux produits qui arrivent du monde entier, nouvelles plantes, et qu'en mélangeant ces nouvelles plantes avec d'autres ingrédients, ça change la saveur de ce qu'on en mange.
Ouais.
Surtout en évitant de mettre trop de sel, trop d'épices, ça aide justement à avoir le goût de chaque aliment.
Oui, ça c'est une notion intéressante, cette notion de je reviens dessus, de nouvelles saveurs, parce que bon, depuis que je fais les podcasts, il y en a, c'est quand même assez récent. C'est la première fois qu'on me parle de nouvelles saveurs. Les produits, ils existent. Alors, est-ce que ce sont des produits qu'on ne connaissait pas forcément, ou est-ce que c'est une nouvelle manière de travailler ces produits?
C'est surtout une nouvelle manière de travailler ces produits, de soit moins les cuire, soit les cuire différemment, moins les assaisonner, les associer à différents ingrédients que l'on ne sait pas, justement.
Oui, c'est oser des associations.
C'est justement oser faire un mélange de saveurs, aussi bien du sucré salé, sans a priori, c'est ce qui relève justement le goût de différents aliments. Si on mange une pomme de terre, on peut la saisonner de différentes manières, ça n'aura jamais le même goût.
C'est vrai. Alors là, est-ce que c'est votre expérience de cuisinière quand on
peut... C'est mon expérience, parce que j'aime faire découvrir, j'aime innover surtout dans la cuisine.
Quand vous avez des invités, vous allez vous gratter la tête un petit peu pour vous dire qu'est-ce que je vais leur faire découvrir. Comment d'ailleurs, c'est pas à moi de faire la réponse, c'est à vous. Comment est-ce que vous procédez lorsque vous avez des amis qui arrivent chez vous ou que vous les invitez? C'est mieux quand même, il faut avoir le temps de préparer. Comment est-ce que vous préparez votre repas?
Déjà, j'essaye de savoir surtout ce qu'ils aiment, indirectement, bien sûr. Et de là, je vais faire mon marché. Mais ça, les marchés chez les petits commerçants et surtout sur les marchés, pas dans les supermarchés. Je n'aime pas du tout les supermarchés. J'aime bien parce que les produits sont complètement différents. Oui. Donc, j'achète mes ingrédients. Et quand j'arrive chez moi, que ce soit pour, par exemple, faire une purée, je ne la fais pas de la manière d'une purée normale. J'associe avec des épices et d'autres ingrédients pour essayer de relever justement la saveur de ces aliments.
Oui.
Parce que je sais qu'ils aiment aussi, qu'ils savent que moi, j'innove à chaque fois. Quand ils viennent manger, ils ne mangent jamais la même chose. Ils ne mangent pas la même chose. À chaque fois, c'est différent et ça n'aura jamais le même goût, même si je prépare toujours de la même manière. Je rajoute ou je change.
Vous changez des petites choses. Alors, est-ce que c'est en fonction de votre état émotionnel du moment ou il y a d'autres raisons qui font que vous avez envie de faire différemment?
Ça dépend des saisons, ça dépend de mon humeur. Ça dépend du temps aussi que je dois consacrer pour faire ce plat.
C'est déjà pas mal. Alors, ce que vous nous dites, Sonia, vous le faites instinctivement ou si vous avez appris auprès de chefs, dans des cours?
Auprès de ma mère, elle a regardé faire de la cuisine. J'ai appris en regardant les émissions culinaires. J'ai surtout appris mes enfants qui étaient mon fils qui était dans la cuisine, ma fille qui est pâtissière. Donc à chaque fois qu'ils avaient des plats ou quelque chose à faire, je leur laissais la cuisine et ils innovaient. Je regardais comment ils faisaient et en regardant des chefs quand j'étais invitée dans leur cuisine pour voir justement comment ils travaillaient.
Oui, parce que votre activité vous amène très souvent auprès de chefs.
De chefs dans leurs ateliers culinaires qui font énormément, justement, pour faire découvrir tout ce qu'ils font, toutes les nouveautés.
Ouais, oui, j'en suis témoin puisque nous étions ensemble il y a quelques jours avec Nicolas Baridje et la cuisine polynésienne. La cuisine est un sujet suffisamment important, on le voit, pour que depuis 2011, il y ait une fête de la gastronomie, aujourd'hui Goût de France, fête de la gastronomie. Quelle est votre expérience de la fête de la gastronomie?
Mon expérience, c'est que en allant justement dans ces différents événements, j'ai appris à voir, enfin j'ai appris. Oui, en allant justement dans ces salons, j'ai vu pas mal de producteurs, tout en discutant avec eux justement, ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient avec leurs produits, comment ils arrivaient à essayer de justement à mettre dans le commerce qui était très difficile pour certaines personnes parce que il y a toujours des réticences.
Ah bon?
À essayer de connaître, oui, pour connaître des nouvelles saveurs. Bon, tout par exemple, l'ail noir.
Oui.
Les personnes, quand ils voient l'ail noir, ils se disent, bon, c'est quoi? C'est bizarre, ils n'ont pas envie de goûter, alors que c'est tout à fait bon, que ça soit gustativement, que toutes les nutritions qu'il y a, justement, que ça apporte.
Mmh. Oui, donc ça veut dire qu'il faut, sur des produits nouveaux, il faut montrer leur utilisation, montrer ce que l'on peut faire avec.
Il faut énormément le montrer, énormément le faire découvrir, justement, avoir. Il faudrait plus de salons, je dirais, dans l'année.
Il faudrait plus de salons dans l'année. Ah oui, voilà. Alors, est-ce que vous, Sonia, vous avez, par rapport à la fête de la gastronomie, vous avez organisé un événement sur...
Non, personnellement, je n'ai pas organisé d'événement. J'aurais bien voulu, surtout dans les écoles, parce que je trouve que dans les écoles, on ne parle pas assez de cuisine, de gastronomie.
Oui.
On n'explique pas assez aux enfants. Qu'est-ce que c'est que l'aliment? Qu'est-ce que c'est que la saveur?
Oui. Bon, mais ça veut dire que peut-être une année prochaine, vous pourriez le faire.
Je pourrais le faire. Je l'ai déjà fait une fois dans les écoles élémentaires.
Ouais.
À X années, en faisant découvrir justement aux enfants tous les différents légumes. C'était assez amusant et assez instructif. Je n'ai pas... le nom de tel ou tel légume, quoi. Parce que quand ils l'ont dans leur assiette...
Travailler avec les enfants, c'est toujours un vrai bonheur, sur tous les sujets. Pour vous, qu'est-ce que pourrait être une fête de la gastronomie? Vous connaissez celle que l'on fait depuis 2011. Est-ce que vous trouvez que tel que c'est fait, c'est bien? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Alors déjà, vous en avez proposé une, faire plusieurs salons dans l'année. Est-ce que vous verriez des améliorations que la mission Goût de France pourrait mettre en œuvre maintenant?
J'aimerais bien qu'il y ait un spécial salon enfant, rien que pour les...
Ça, c'est très intéressant.
Là, c'est énormément pour les adultes. Il y a peut-être des petites sessions où ils apprennent justement, où il y a des petits stands, mais spécialement pour enfants, il n'y a pas, ça serait...
Est-ce que la semaine du goût n'a pas cette vocation?
Elle a cette vocation, mais pas encore assez, parce que c'est pas encore assez implanté dans certaines écoles, il y a toujours des réticences.
Et c'est quoi ces réticences pour vous? Parce que moi j'ai quelques idées là-dessus, parce que je vais aussi dans les écoles et je vois parfois, comme vous dites, les réticences. Mais comment est-ce que vous les voyez, vous, ces réticences?
Certains directeurs ou certains directrices d'école n'apprécient pas trop qu'on vienne justement dans les cuisines pour voir comment ils préparent certains plats. Parce que dans la plupart, c'est juste fait réchauffé à l'eau ou cuit basiquement, oui, sans aucune saveur. C'est de la nourriture basique, quoi. C'est pas assez élaboré, c'est pas assez. Ils apprennent oui. pas assez à chaque enfant à pouvoir déguster ou découvrir des nouveaux produits.
Oui, ça veut dire qu'il faudrait demander à l'éducation nationale, comme il y a un cours de français et de mathématiques, qu'il y ait un cours de cuisine ou de découverte de la cuisine, de découverte des produits. Ça pourrait être ça. Voilà une proposition qui pourrait être faite.
Ça serait pas mal.
Ça serait pas mal, hein.
C'est quoi un légume? Comment il pousse? Comment le faire cuire? Des petites étapes. Déjà, savoir le nom de chaque légume et de chaque fruit. Ça, ce serait déjà une bonne chose.
Je pense que ça nécessiterait déjà une bonne formation des maîtresses et des maîtresses, peut-être pas trop, et encore que les jeunes maîtresses ne sont pas toujours derrière les fourneaux, donc il y aurait sans doute déjà une bonne éducation à faire aux maîtresses et aux maîtres d'aujourd'hui. Bon, mais soyons fous, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ça? Ou alors, comme vous le disiez, qu'il y ait directrices et les directeurs d'école acceptent qu'il y ait des intervenants extérieurs dans les classes pour avoir cette formation si eux ne sont pas à même de le faire. Moi, j'ai une expérience aussi parce que dans mon village de Haute-Savoie, il y a une cantine avec une cuisine, d'ailleurs une très belle cuisine. Deux dames font la cuisine. Et pour avoir essayé de monter un projet, comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été vraiment possible parce que pour des raisons d'hygiène et de sécurité, on ne doit pas passer le SAS. Bon, on peut comprendre ça. Parce que il faut bien comprendre que les normes de sécurité dans les écoles sont extrêmement drastiques, ce qui est bien normal.
De plus en plus rigoureuses.
Absolument, absolument. Donc les cuisinières et les cuisiniers voient de très mauvais œil quelqu'un arriver dans leur cuisine. Cela dit, pour ce qui me concerne, on avait tourné un petit peu la chose. On s'était contenté d'élaborer un gâteau de Savoie. Là, j'avais demandé à un chef qui faisait partie de l'école Bocuse, de Paul Bocuse, ou l'association Paul Bocuse, ou la fondation Paul Bocuse, je sais plus. Et le matin, dans la salle de la cantine, on avait fait ce gâteau de Savoie. Mais ça veut dire que il faut déplacer les tables, c'est tout un problème d'organisation. Et donc, ça veut dire que ça sort de la routine et de l'habitude. Et là, ça commence à poser de très, très gros problèmes. Alors, on y arrive avec des enseignants qui sont passionnés par la gastronomie ou qui sont intéressés par la chose, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est problématique. Donc, au dernier comité de pilotage, j'ai demandé que la mission Goût de France labellise tout au long de l'année des événements qui pourraient être développés par tout porteur de projet, mais qu'il le fasse en accord avec son village, sa région, sa spécificité. Fêter la gastronomie telle que c'est fait sur un week-end ou un grand week-end, c'est parfait. Et je rencontrais une dame l'autre jour qui me dit « mais c'est beaucoup trop
oh. ».
C'est beaucoup trop. Et je vous ai vu, vous Sonia, pendant le week-end de la fête de la gastronomie, vous étiez partout.
Ah oui, j'adore ça, donc je découvre un peu tout.
Alors, comment avez-vous trouvé cette organisation, notamment au village de la gastronomie au Trocadéro, puisque vous avez passé l'essentiel du temps
Dans
trois
ces,
jours.
Dans, ouais, quatre
quatre
jours,
jours.
Ouais.
4 jours. J'ai été 3 jours, c'est pour ça.
Ouais.
L'organisation, c'est impeccable. Pour moi, j'ai rien à redire là-dessus. Sauf que il y a pas beaucoup de stands.
Ah
par
oui.
rapport, c'est vrai qu'à la dernière session, où là, il y avait pas mal de
moins stands. De stands cette année.
Il y avait moins de stands cette année. Peut-être qu'il y avait moins, peut-être, bon, c'était surtout le nombre de participants. C'est comme ça que je vois le nombre d'inscrits, justement. Donc, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus en 2020, donc pour la prochaine session. Et j'espère qu'il y aura autre chose avant 2020, justement, autre chose sur la gastronomie.
Moi, je trouverais bien qu'on sache que par le biais de la mission, qu'il y ait tel événement dans tel endroit, tel événement dans tel endroit. Donc, ça veut dire que les gens qui veulent y aller, ben, ils ont le temps d'y aller. Aujourd'hui, ils sont dans le Périgord. Demain, ils sont en Alsace.
Oui.
Après-demain, ils sont dans, enfin, le week-end d'après, ils sont dans le Pays Basque. Enfin bon, il y aurait. En plus, je trouve que pour le tourisme, ce serait quand même un petit peu mieux, quoi.
Oui, parce que c'est vrai qu'il fut un moment où il faisait que la gastronomie, c'est-à-dire que découverte de la gastronomie que Paris, Île-de-France.
Oui.
Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était bon cette année. Bon, peut-être que les autres années, j'ai pas fait trop attention. C'est que ça soit toute la France. Donc ça, tout le monde a pu découvrir. Encore faut-il que ça soit un peu plus dans certaines villes et villages. Il y a des endroits où on n'en entend pas du tout parler parce que c'est retiré ou parce que ça importe peu ou quelqu'un ne veut pas y aller justement faire découvrir à ces endroits-là.
Oui, c'est vrai. Je le vis justement avec les amis de la fête de la gastronomie. L'objectif des amis de la fête de la gastronomie, c'est d'amener cette fête de la gastronomie jusque dans la cuisine de chaque foyer. Alors, c'est un objectif bien ambitieux, mais c'est aussi pourquoi je fais ce podcast, pour sensibiliser le plus de personnes possible, pour que les personnes avec qui je discute, j'échange sur le podcast, ensuite parliez à tout le monde dans les contacts que vous pouvez avoir au quotidien. Moi, je le fais. Dans chaque famille, on n'est pas obligé de faire un événement gigantesque, mais au moins dans chaque famille, de dire, eh bien, ce dimanche ou ce samedi ou peu importe le jour, je vais faire un repas un petit peu différent en réfléchissant à ce que je vais faire et en disant sur le site de la fête de la gastronomie, voilà, dans mon chez moi, comme en tant que particulier, voilà. Ça serait, pour moi, ça serait vraiment l'idéal. D'ailleurs, notre ami Jean-Jacques Pinet, qui est le chef de la mission, il est bien d'accord avec cette chose-là. Fanny Ray, qui était la marraine de l'an passé, la marraine de cœur de cette année, a bien dit qu'elle souhaitait que ce soit une fête populaire. Il semble encore maintenant que cette fête de la gastronomie soit prise en compte par les chefs, enfin par les professionnels au sens large, mais pas tellement pour les particuliers. Et c'est là où à la fois la mission et à la fois tout le monde, on a besoin de tout le monde.
Il y a pas, oui, comme vous dites, il y a pas assez. Ça rentre pas assez dans les maisons, quoi. C'est pas dans les foyers, il y a pas assez de personnes.
Ça ne rentre pas assez dans les maisons parce que on pense encore que c'est une fête qui est réservée aux professionnels, restaurateurs. Bon, vous avez bien vu si vous êtes allé sur le site de la fête de la gastronomie dans les événements, dans les inscrits, il y a énormément de grandes marques, Silver Fourchette, Nicolas. Domitis, les maisons de retraite, c'est très très bien, c'est oui. Vraiment très très bien. Il serait encore mieux que l'on aille dans chaque famille, que comme on fait Halloween par exemple, eh bien on fasse ou la fête de la musique, puisque la fête de la gastronomie, dans l'idée, c'est un peu la fête de la fête de la musique, c'est-à-dire que tout le monde participe. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que tout le monde participe. Donc, pour moi,
ça serait bien de fixer une date toujours la même date pour justement tous les ans se remémorer, pour entrer un peu plus dans les foyers, que justement ils se disent tiens, c'est la fête de la gastronomie, je vais apprendre à innover justement, à faire autre chose.
Absolument.
À manger autrement.
Alors cette date existe, hein, mais pour moi ça n'est pas suffisant. Je trouverais intéressant qu'on puisse labelliser la mission puisse labelliser des projets tout au long de l'année. Alors j'ai été un peu suivi. Il y a d'autres gens, notamment un patron de syndicat qui disait ce serait pas mal. Enfin bon, on va voir ça. Et donc moi ma question pour vous, Sonia, c'est qu'est-ce que ce serait pour vous une fête de la gastronomie un peu idéale?
Ça serait par exemple à chaque nouvelle saison, comme à chaque nouvelle, il y a toujours les produits qui sortent, les produits, les nouvelles carottes, dans tous les nouveaux légumes, d'apprendre à les faire cuire justement en conséquence de ce nouveau produit, parce que même si il y a la carotte qui, je prends l'exemple de la carotte nouvelle qui vient de sortir, c'est pas parce que la dernière fois on l'a cuisinée d'une certaine manière que cette année, si on la recuisine de la même chose, ça aura toujours le même goût. Mais c'est que à chaque saison, les légumes ne poussent pas toujours la même année toute l'année. Donc il y a une période pour les carottes, une période pour certains
les poireaux. Petits pois.
Voilà, exactement. Donc on les cuisine pas de la même manière en janvier, au mois de juillet et autres.
Oui, oui.
Parce que c'est pas un légume qui pousse tout le temps. Donc là, c'est pas du tout la même saveur. Donc il faudrait qu'à chaque saison, il y ait quelque chose de nouveau par rapport au calendrier.
Ça aussi, c'est une bonne idée à proposer. C'est qu'on fasse une fête de la gastronomie saisonnière. Ça serait bien.
Hein. Oui.
Allez, l'affiche de Good France cette année, hein, vous la voyez derrière moi. Oui. Fêter le printemps de la gastronomie française. Donc, ce serait vraiment bien. Ouais, c'était une bonne idée à proposer à nos amis de la mission.
Que ça soit pour les légumes, aussi bien pour la viande, le poisson, c'est pareil. Les crustacés, c'est jamais la même chose. Les crustacés, comme on voit les coquilles Saint-Jacques, c'est mois de septembre, octobre, c'est pas toute l'année. Les huîtres, c'est pareil. C'est pas. On les mange pas de la même manière tout au long de l'année.
Ça veut dire que ça nécessite quand même un changement dans les idées, quoi, dans l'état d'esprit dans l'esprit des gens plutôt. Jusqu'à une période récente, on mangeait plutôt pour se nourrir. Alors de manière exceptionnelle, bon, on a beaucoup de grands chefs, mais il faut aller dans les restaurants. Et aujourd'hui, il me semble que notamment parmi les 30-40-naires, ils ont envie de découvrir le bien manger. Est-ce que c'est votre...
Oui, tout à fait. Ils veulent quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils avaient avant, et ils veulent découvrir aussi, enfin certaines personnes veulent découvrir justement ces nouvelles saveurs, ces nouvelles choses à manger. Ils veulent qu'on leur apprenne à faire préparer un plat différemment. Au lieu de toujours manger des plats réchauffés, des plats vite faits qui sont déjà préparés dans les commerces. Parce que comme j'explique à toutes les personnes, vaut mieux manger peu et bon que de manger énormément
et pas bon.
Et avec une mauvaise saveur.
À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui sont un peu éloignés de la cuisine plaisir pour toutes sortes de raisons? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils prêtent un petit moment d'attention sur l'élaboration d'un repas différent de ce qu'ils ont d'habitude, à votre avis?
Question difficile.
C'est pour ça que je la pose.
C'est très bien, vous avez tout à fait raison. Ce que je peux leur dire, c'est d'aller plus souvent au marché, pour justement acheter tous ces produits, pour essayer de les découvrir autrement. Parce que, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais comme je disais tout à l'heure, c'est que acheter un légume au mois de janvier ou l'acheter au mois de février, ça n'aura jamais le même goût. Gustativement, ça sera jamais pareil. Et il faudrait aussi, c'est que le maraîcher qui vend justement ce genre de légumes ou poissons et autres, leur donne des recettes, offre des recettes à ses clients.
Oui, bonne idée. Encore une bonne idée.
Des fois, la rutabaga, le fenouil et autres, bon, c'est sur les étals, mais bon, ça se fait cuire comment ? Patate douce, c'est quoi ? Tout le monde peut l'acheter, la faire cuire comme il peut, mais on ne sait pas l'accommoder avec autre chose.
Alors, sur certains marchés que je connais, notamment en région lyonnaise ou en Rhône-Alpes, il y a une association avec laquelle je travaille, qui est l'association Aime ton marché, qui est une association à Lyon, qui est une émanation de la CCI de Lyon, dont l'objet est justement de dynamiser les marchés, d'animer les marchés. Et ils font régulièrement venir des chefs sur les marchés. La personne va faire son marché et après elle revient vers le chef en lui disant « Comment est-ce que vous cuisineriez ça ? Donnez-moi des idées pour cuisiner ce produit. » Par exemple, vous parliez du fenouil. Beaucoup de gens n'aiment pas le fenouil. Ah bon, c'est ce qui est rigolo, c'est que beaucoup de gens aiment le pastis, mais le fenouil…
C'est ça.
C'est d'ailleurs très rigolo. Il y aurait aussi des questions à se poser sur le sujet, mais ça n'est pas le nôtre aujourd'hui. Donc voilà, comment cuisiner le fenouil ? Il y a tellement moult façons de cuisiner les choses. Et ça veut dire que si effectivement les commerçants ne font pas ce travail de faire découvrir leurs produits, il faudrait que ce soit d'autres personnes qui le fassent, comme cette association Aime ton marché, qui est, encore une fois, je le redis. Alors, vous me tendez la fourchette là, comme pour parler de Aime ton marché. Ils vont faire une animation très rigolote sur les marchés de Lyon du 20 au 26 mai, ils vont faire les brochettes du marché avec un primeur ou un ensemble de primeurs qu'ils ont nommé le primeur de mes envies.
Waouh, ça c'est un beau nom.
C'est pas mal, hein ?
C'est très, très intéressant.
Et alors, j'imagine que vous allez de temps en temps, ou même assez régulièrement, sur les marchés proches de chez vous, ou les marchés dans Paris. Comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes satisfait des produits qu'on y trouve ?
Pas souvent. Parce que des fois, sur les étals, il y a, même si c'est des nouveaux produits, déjà la présentation, elle n'est pas, le fruit ou les légumes n'est pas très bien mis sur l'étalage et les mélanger. Ils ne donnent pas du tout envie d'acheter, même si c'est nouveau. Et ils n'expliquent pas assez aux clients, comme on disait, c'est comment faire cuire ce produit, comment l'agrémenter, cet aliment, il est un peu très abîmé sur les étals.
Alors peut-être que la différence entre la province et Paris, c'est que En province, on a la chance sur les marchés d'avoir beaucoup de producteurs. J'imagine que c'est plus compliqué en région parisienne d'avoir des producteurs sur les marchés. Et ce sont plutôt des marchands de quatre saisons.
Oui, il n'y en a pas énormément parce que mon marché, celui que je vais, c'est sur, sans faire de publicité, c'est le marché des Sablons, à Pont-Neuf à Neuilly. Là, en sortant du travail, je suis directement là sur mon marché. Et je trouve déjà qu'il est très petit, il n'y a pas assez de commerçants. Quoi. C'est très, il n'y a pas assez de.
Ça me permet d'en parler. Il y a une initiative qui date depuis déjà quelques années avec un label, enfin ou une marque qui s'appelle C'est Juste Paris. Vous regarderez C'Juste Paris. Je suis très content d'en parler, que vous me donniez l'occasion d'en parler, de mon ami Pierre Priolet. Alors, Pierre Priolet, mesdames, messieurs, peut-être vous rappelez-vous de cet épisode il y a 4 ou 5 ans aux informations à l'époque c'était peut-être Antenne 2, bon, peu importe, on voit ce monsieur avec un bulldozer dans le Vaucluse, sur sa propriété, en train d'arracher ses poiriers avec un bulldozer. Et en les arrachant, il pleure. On le voit pleurer. Et ce reportage avait beaucoup, beaucoup ému, et après, il a été beaucoup sollicité par les médias. Alors, Pierre Priolet, maintenant il est à la retraite, mais c'est quelqu'un que je connais bien. C'est un garçon qui a une très forte personnalité. D'ailleurs, il a fait des communications, je pense qu'il fait encore des communications à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on l'avait vu à une émission politique il y a 2 ans, me semble-t-il, dans l'émission de Pujadas. Et donc, lui, son initiative, c'est de faire venir des produits frais, donc fruits et légumes, des environs, des maraîchers aux environs d'Avignon, de tout le Vaucluse, de les amener à Paris et de les vendre moins cher que partout ailleurs. On dit, mais attends, mais comment tu fais? Il dit, simplement, on prend le juste prix. Et en plus, sur l'étiquette que l'on installe sur le produit que l'on vend, on met évidemment le prix de vente et on met le prix qui sera redistribué aux paysans.
Ah, c'est une bonne idée.
Vous voyez? Donc, on sait tout de suite à quoi s'en tenir. Et l'idée, c'est que les producteurs vivent de leur métier, ce qui paraît quand même la moindre des choses, quoi. Hein, bon. Mais on voit bien que le bon sens n'est pas toujours... n'est pas toujours dans toutes les têtes. Enfin bon, donc je voulais vous signaler, alors lui, il est à Pantin, mais vous regarderez, mesdames, messieurs et Sonia, sur Facebook ou même il y a un site internet, c'est juste Paris, c'est apostrophe juste Paris. Vous pouvez aussi regarder sur le nom de Pierre Priolet, et donc vous aurez toutes les indications et les marchés sur lesquels il intervient. Et au passage, j'indique qu'en faisant ça, en mettant cette initiative en place, il a participé à remettre des gens qui étaient éloignés du travail. Il les a remis dans un emploi salarié, dans un emploi rémunéré. Donc, il fait d'une pierre 36 coups, j'allais dire.
Oui.
Oui. Donc, je vous invite à aller voir ça, à aller voir Pierre Priolet, à aller voir C'est juste Paris. Ce sont des initiatives dont il faut parler et qu'il faut mettre en avant. Je lui avais demandé à Pierre, je lui ai dit, tu sais, ça serait bien que tu participes à la fête de la gastronomie. Alors, il m'avait un peu renvoyé dans mes foyers en me disant que son initiative n'était pas forcément très très bien vue. De la distribution et de la grande distribution. Et bon, la fête de la gastronomie et Goût de France, on travaille avec les gens du métier. Hein. Ça veut dire qu'il y a parfois des intérêts un petit peu contradictoires. Mais je trouve qu'il est quand même intéressant de parler des initiatives qui sont vraiment au bénéfice et du producteur et du consommateur. Ça me paraît essentiel. Quand même. Et on veut bien admettre qu'à un moment, il y ait un intermédiaire, mais pas une flopée d'intermédiaires comme il y a. Alors, je sais bien qu'il y a, mais c'est historique, les grands marchés d'intérêts nationaux qui sont absolument nécessaires, évidemment. Donc, voilà, sur la fête de la gastronomie, vous nous avez donné quelques idées, des rendez-vous saisonniers.
Bon, oui, ça serait innovant, ça serait découvrir justement tous les produits comme les produits de saison.
Vous, Sonia, est-ce que vous avez des produits que vous aimez en particulier travailler?
J'aime bien la pomme de terre, parce que j'aime bien la faire cuire différemment. Les carottes, associées avec les carottes et avec le fenouil.
Alors, vous associez carottes et fenouil et pommes de terre?
Oui.
Ah oui, alors là, vous êtes obligé de me dire comment vous faites.
Je fais cuire le tout, je fais cuire dans du lait déjà.
Je fais cuire dans du lait. Attendez, on va reprendre. Mesdames, messieurs, c'est la partie recette de Sonia. Donc, ingrédients, pommes de terre, fenouil, carottes. Et alors, détaillez, s'il vous plaît, Sonia.
Donc, j'épluche aussi bien pommes de terre, fenouil et carottes. Donc, je coupe pas en trop gros morceaux, en morceaux, quoi. Je coupe en morceaux. Donc, je fais cuire en onde du lait.
Le tout mélangé.
Je ne mets pas de sel du tout. Donc, j'assaisonne juste après. Donc, je mi-cuis. Je fais une cuisson
al dente.
Voilà. J'aime pas que ça soit trop cuit, avoir le goût. Et donc, dès que c'est cuit, je le réduis en purée.
Ouais.
En mélangeant le tout avec un petit peu de piment d'Espelette. Donc, je relève un petit peu le tout et une pointe de beurre.
Très bien.
Bon beurre de ferme, par contre.
Un bon beurre de, j'ai pas compris.
De ferme.
Un bon beurre de ferme. Donc, ça, vous trouvez dans chez votre fromager près de chez vous.
C'est ça.
D'accord. Donc, ça veut dire que.
Ouais. Chez mon beurre spécial.
Ouais. Donc, c'est un beurre de Normandie, vous savez, ou.
Je ne vais pas faire de publicité, donc si c'est le beurre au Bordier.
Ah oui, non, mais bon, il y a pire comme beurre. Hein. Non, mais c'est très bien. Et tant qu'à faire, il vaut mieux utiliser de très bons produits, et comme vous le disiez exactement, tout à l'heure, oui, il vaut mieux en utiliser moins.
Voilà,
mais travailler avec un bon produit. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. On le voit notamment, on reviendra, hein, je n'ai pas fini de vous questionner sur la recette, mais j'en profite. Pardon de vous couper la parole. On le voit notamment avec la viande. Et en ce moment, on fait tout un pataquès sur la viande. Évidemment, on est bien conscient qu'il faut manger moins de viande. Et ce qui est plus important, mangeons moins de viande, mais mangeons de la viande de meilleure qualité. Ah, c'est-à-dire l'élevage de réforme, non, on mange des bêtes à viande qui sont élevées pour
ça. Élevées pour ça.
Revenons à votre recette et au beurre Bordier. Le lait, c'est du lait qui vient de chez votre fromager.
Ah, j'ai oublié d'expliquer, c'est du lait de soja.
Très bien, voilà, le lait de soja. Cela dit, on peut peut-être essayer aussi le lait de coco.
Avec du lait, oui, pourquoi pas. J'ai pas encore essayé. C'est
une très bonne idée. Avez-vous essayé avec le lait de chèvre?
Non, il faudrait que j'essaye aussi.
Voilà, le lait de brebis.
Non plus.
Bon, essayez. Et alors, une proposition, alors que moi j'utilise beaucoup, de la crème fraîche de brebis.
Ah, j'ai pas encore testé.
Alors, testez la crème fraîche de brebis. C'est extraordinaire. Pour ce qui me concerne, j'utilise maintenant très très rarement de la crème fraîche de vache. Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit me convient. Ouais, très bonne. Et la crème fraîche de brebis, c'est vraiment un vrai régal. À la fois à manger comme ça à la petite cuillère et à la fois en préparation dans un plat, c'est vraiment essayez donc.
Je connais les yaourts de brebis que je mange énormément.
Ouais.
Donc, j'essaye la crème, effectivement.
D'ailleurs, le beurre de brebis également. Et dans les alors, on trouve ça dans les magasins bio. Beurre de brebis et beurre de chèvre aussi. Alors, la petite contradiction, c'est que ces beurres-là ne sont pas faits en France.
Ouais, ils sont importés, donc.
Oui, ils sont importés. D'ailleurs, c'est un peu rigolo parce que pourquoi est-ce que dans d'autres pays on fait du beurre de chèvre et du beurre de brebis? Pardon, que chez nous on ne fait pas du beurre de chèvre et du beurre de brebis et qu'on le fait dans d'autres pays. Ça, je ne comprends pas. Alors, j'ai pas très loin de chez moi, j'ai un chevrier et j'avais un monsieur qui avait des moutons et je lui ai posé la question. On ne nous le demande pas, et puis voilà, non. Je dis non, mais est-ce que vous essayeriez? Ben non. Oui, c'est un problème de demande, mais voilà, et ce sont des produits, tout à l'heure vous parliez de nouveaux produits, essayez le beurre de chèvre, le beurre de brebis, la crème fraîche de brebis. Alors, crème fraîche de beurre de chèvre, j'ai jamais vu. Mais bon, très bien, donc voilà une belle recette. Et alors, cette recette, Quand vous la mettez dans l'assiette, vous la servez à la cuillère, en poche, comment est-ce que vous faites ?
À la cuillère.
D'accord.
Je n'aime pas qu'elle soit trop liquide, ouais. Qu'elle soit bien compacte. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du fenouil, je n'en mets pas non plus énormément. Par exemple, pour 4 carottes, je mets la moitié d'un fenouil.
Ouais.
Il ne faut pas que ça rouge trop le plat.
Oui, et puis s'il y a un petit peu de piment d'Espelette, ça va juste relever un petit peu.
Exactement.
Ah, ouais. Et alors, la purée, vous servez avec quelle autre chose ? Quelle est la pièce principale dans l'assiette ?
Pas de pièce principale. Je peux aussi bien l'agrémenter avec un poisson qu'avec un morceau de viande pas trop cuit. J'aime pas que ce soit trop cuit. Ou aussi bien avec un œuf mollet.
Ah oui, très bien l'œuf mollet, très bien. La viande, vous avez une préférence Est-ce que vous avez essayé la viande Angus ?
Non.
De race Angus ?
Oui, qui est un peu macérée depuis…
Qui est maturée et persillée. Un petit peu comme le Wagyu de la bête du Japon, hein, de la bête japonaise, du bœuf japonais.
On a déjà parlé, il faut que je teste.
Tester, c'est intéressant comme parfum, comme texture, et puis c'est vraiment très tendre, quoi. C'est vraiment très, très chouette. Avez-vous une autre recette dont vous pourriez nous parler?
J'avais essayé il y a quelques années, parce que mes enfants ne voulaient pas manger des amis de mes enfants, quand je les faisais venir à la maison, certains légumes, ils ne voulaient pas en manger. Donc, je leur avais fait un dessert, un crumble sucré-salé. J'avais mélangé mes fruits avec des endives.
Ah oui !
Avec les endives, et ils ont tout mangé. Et après, je leur ai dit, vous savez, vous venez de manger un légume. Non, ce n'est pas possible. Ben, si, il y avait des endives dedans, alors qu'ils détestent les endives. Ces enfants-là détestaient les endives.
Alors,
incroyable.
Oui, c'est incroyable. Les ingrédients pour le crumble, mis à part l'endive.
C'était des fruits de saison.
D'accord.
J'ai mélangé les fruits de saison. À n'importe quelle période de l'année, je mélange les fruits de saison. Donc, bon, les endives, c'était plutôt l'hiver.
Oui.
J'avais mis à cette période-là. Mais sinon, d'autres périodes, je peux mélanger avec un autre légume, aussi bien avec la fane de…
De radis ou de carottes.
Avec les carottes. Parce que ça aussi, avec les fans de carottes, je fais de la soupe avec pour la jeter. Tout embêtant, c'était quand je vais acheter mes carottes nouvelles, on me dit, bon, les fans, je vous les enlève, je les jette. Non. Je les garde. Ils sont toujours étonnés. Si, je les garde.
Vous avez rajouté un petit peu de cassonade, de sucre roux.
Oui, j'ai fait mon crumble avec du sucre roux.
Les endives, vous avez coupé en morceaux ?
J'ai coupé le tout en petits morceaux, donc tout était mélangé avec les fruits, comme je dis, des fruits de saison. Là, c'était à ce moment-là, c'était des fruits, les pommes, poires. J'ai mélangé directement avec les pommes, mes poires. Ça m'arrive aussi de rajouter de la carotte, que j'avais pré-cuit évidemment d'avance.
Oui, parce que le temps de cuisson n'est pas le même.
Mélangé avec.
Et par rapport à ce que l'on dit, les fans de carottes, j'ai une petite anecdote. Un jour, je vais sur le marché, et pareil, le producteur me dit, je vous enlève les fans. Ah ben, je dis non, n'enlève pas là, non, surtout pas.
Surtout pas.
Ah, il me regarde comme ça, puis il y avait un monsieur qui était à côté. Il me dit, mais vous faites quoi avec les fans? Alors, je lui dis, vous pouvez faire un potage, un velouté. Vous pouvez aussi, si vous les faites griller gentiment et doucement, un petit amuse-gueule pour l'apéro. Alors là, je vous dis pas les yeux des mecs.
En plus, c'est très bon.
Et oui, c'est très bon. Là aussi, c'est un autre domaine. Comment réutiliser les épluchures ? Comment utiliser les déchets, ce que l'on nomme déchets ? Vous travaillez un peu là-dessus
Non, je ne suis pas encore trop penchée dessus. Certains déchets, je dirais, de carottes. Ce que je n'ai pas utilisé, c'est les déchets de la pomme de terre. J'utilise peut-être la carotte que je fais frire. Déchets de carottes, de navets.
Ouais.
Là que je fais frire. Là, oui, je garde et je réutilise.
Quand vous cuisinez, est-ce que vous cuisinez et vous êtes dans un état d'esprit particulier quand vous cuisinez? Est-ce que vous faites un scénario? Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous racontez une histoire?
J'aime bien mettre de la musique, effectivement. Je mets de la musique en fond sonore, la musique de... J'allume la radio, je mets la musique qu'il y a en fond sonore. J'évite quand ça parle parce que ça me distrait, j'aime pas.
Ouais, ouais.
Que ça soit plutôt musical et tranquille, avec la fenêtre ouverte. J'aime bien aussi l'air, que ça soit automne, que ça soit n'importe quelle saison, j'ai toujours la fenêtre qui est entre-ouverte pour justement aérer la pièce et donner envie plus de cuisiner personnellement. J'ai mes petits trucs, que j'aime bien.
Dans votre pratique de la cuisine quotidienne, vous cuisinez tous les jours ou si vous cuisinez, vous faites un plat pour 2 ou 3 jours, que vous allez accommoder peut-être différemment tous les jours, comment ça se passe?
Non, quand je me fais à manger, c'est à chaque fois une nouvelle chose.
Ouais.
Bon, s'il y en a un peu plus, évidemment, je congèle,
ouais. Parce
que c'est moi qui peux préparer. Mais je préfère changer, innover à chaque fois.
Bon, je vais me faire inviter une fois, je vais à Paris. Bon, oui, l'idée, en fait, c'est d'amener le plus possible de gens à cuisiner, à retrouver l'idée de faire quelque chose plutôt que d'acheter des plats. Alors on va me dire oui, mais bon, j'ai 3 heures de métro. Oui, d'accord. Mais on peut voir qu'il n'y a pas que les gens qui font 3 heures de métro qui achètent des plats tout près. Bon.
Aimer à cuisiner. C'est pas le tout de faire de la cuisine, il faut aimer ce qu'on fait aussi.
Oui, il faut aimer ce qu'on fait. Et je pense que c'est là le défi, c'est comment amener à insuffler aux personnes d'aimer la cuisine.
Je dirais aussi, ça s'apprend au plus jeune âge. Déjà, dire quand on fait de la cuisine, c'est pas dire aux enfants, fichez-moi la paix, allez jouer dans votre chambre.
Oui.
Ça serait plutôt les initier à venir en bas, tiens, viens m'aider, coupe-moi ça. Aide-moi à malaxer la pâte, regarde ce que je fais, justement, pour leur donner le goût à manger.
Ouais.
Et à aimer faire ce genre de choses, que ce soit aussi bien garçon que fille.
Ouais,
pas d'après-midi, justement.
Donc, mesdames, messieurs, vous avez bien entendu, faites cuisiner vos enfants avec vous.
Énormément.
Sonia, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Non, cette interview, elle était très bien. J'ai bien aimé vos questions. Il faudrait essayer pour rajouter d'autres choses, c'est essayer de trouver beaucoup d'intervenants qui viennent surtout dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. Ça manque d'intervenants.
C'était votre idée du début d'interview. Oui. Mais vous savez, on va le noter et ça va faire son chemin.
Oui, ça me tient énormément à cœur de faire ce genre de choses, justement, de relancer, de faire venir des chefs dans les écoles.
Oui, parce que en intéressant les gamins à l'école, quand la maman et le papa vont venir les chercher, ils vont dire « Ah, on a fait ça avec le chef, faut qu'on aille au marché pour acheter tel et tel produit. » Ça rebondirait sur les parents. Ça serait bien.
Ça serait bien. Et une autre chose que je pense, bon, ça c'est au niveau de l'académie, c'est que quand l'élève arrive au collège, c'est qu'il faudrait que c'est pas… leur apprendre que les bases, bon, il y a les bases évidemment de l'école, mais leur inculquer la cuisine et essayer de leur demander, que ce soit en cinquième par exemple, essayer de voir s'ils préfèrent continuer dans un processus d'une école jusqu'en terminale ou partir directement en apprentissage pour apprendre justement ces nouvelles choses, pas les obliger justement à aller jusqu'en seconde pour justement découvrir que ça n'intéresse pas du tout.
Oui.
Une perte d'années pour rien.
Enfin, c'est vrai.
Justement.
Oui. Il me semble que ça commence à changer un peu.
C'est très difficile. Parce que moi, je pense que quand j'ai fait ça pour mes enfants, ça a été très difficile d'avoir des dérogations, justement, pour pouvoir changer ses mœurs.
Oui, bah parce que tous ces métiers, dit Manuel, il y a, j'en ai entendu parler encore l'autre jour à l'EPMT, hein, l'École de Paris des métiers de la table, où il y avait ce concours Andy Cook, où j'ai été invité, où on a parlé de métiers manuels, voie de garage.
Exactement, c'est ça.
Et les métiers. Oui.
C'est parce qu'on leur dit, tu feras que ça, tu feras cuisinier, tu feras. Pour eux, certains professeurs, ils leur disent que tu feras ça parce que tu ne sais rien faire d'autre.
Voilà, c'est une punition. C'était une punition.
Alors que c'est des super métiers. On a toujours besoin de manger, toujours besoin d'apprendre. Même, il n'y a pas que manger, apprendre à faire n'importe quel travail manuel.
Oui. Alors, Ismaël Menot, le directeur de l'EPMT, a eu une phrase très rigolote parce qu'il dit, justement, j'entends toujours dire que les métiers manuels, alors c'est Ismaël Menot qui parle, les métiers manuels sont une voie de garage. Et il dit, moi je réponds, alors oui, venez avec moi dans le garage des gens qui font ces métiers, vous allez voir ce qu'il y a dans les garages. C'est plutôt des très belles voitures, enfin ce sont de belles voitures. Donc ces métiers dits manuels, on gagne autant d'argent que n'importe quel autre métier. Et il y a de nombreuses années, j'allais chez un boucher qui n'est plus là parce qu'il est décédé, le brave homme. C'est un monsieur qui avait mon âge, c'était très embêtant. Alors lui était boucher et son frère était médecin. Le frère médecin, il était fou parce qu'il disait à son frère, je dirais pas ce qu'il a dit, mais tu gagnes beaucoup plus d'argent que moi.
Il n'a pas répondu, mais alors qui c'est qui est le plus heureux?
Voilà, oui. Alors, l'argent ne fait pas toujours le. Il y en a un qui n'était pas capable de faire des études, donc il a fait boucher. L'autre était capable de faire des études, il a fait médecine. Au bout du compte, lequel est le mieux. Donc,
de toute façon.
Oui. Alors, c'est en train un petit peu de changer, mais on en parle encore. Et dans le concours Andy Cook de l'autre jour, d'ailleurs, on peut le voir sur les vidéos sur Facebook ou sur Internet, Andy Cook. Ces travailleurs, comme on les appelle, qui sont des personnes porteurs de handicap, visibles ou pas, ils étaient heureux d'avoir participé. Ils étaient contents. Sur le visage, on voyait qu'ils étaient heureux. Ils avaient eu quand même un stress important. Ils avaient préparé ce concours. Ils ont fait le concours. Donc, il y avait 4 équipes. Il y a un jury. Donc, il y a un stress. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que ça va plaire? Mais ça, ils s'en foutaient complètement. Alors, ils étaient contents de participer.
Donc pour eux, c'était un plaisir.
Pour eux, c'était un plaisir de faire, non seulement de faire, mais de faire plaisir à d'autres. Et là, on est vraiment. Ouais, on est vraiment dans le partage.
C'était un super événement. C'est comme vous disiez, avec leur sourire, quand là, il y a eu la remise de prix, justement, à ce moment-là, ils étaient tout heureux d'avoir gagné, de se dire « Ah bah oui, j'ai réussi alors que… »
Oui. Et sur la vidéo, il y a un passage qui est émouvant, c'est que le papa d'un de ces garçons était là. Oh là là, il a été ému parce que l'équipe de son fils a remporté le premier prix. Et le papa, il était vraiment très ému. Très ému, et le garçon, il était content. Mais tous, ils étaient contents. C'était incroyable.
C'était naturel.
Quelle leçon de vie. Donc la cuisine est un très beau métier, la cuisine, la pâtisserie, la chocolaterie, tous ces métiers, mais même d'autres, la carrosserie. Moi, dans ma famille, j'ai un cousin qui est carrossier, mais il a inventé des tas de machines, des tas de trucs. Donc n'importe quel métier manuel vaut autant qu'être avocat, médecin, chirurgien, comptable.
On a besoin de ces personnes-là pour nous aider dans la vie courante, comme vous dites. Que ça soit un ébéniste, que ça soit un carrossier, on a besoin d'aller chez eux quand il faut faire une réparation, pour faire quelque chose.
Absolument.
Donc, c'est pas un saut métier, c'est pas un métier de voie de garage, comme certains disent.
Absolument, c'est surtout pas une voie de garage. Qu'on se le dise. Sonia, je vous remercie infiniment.
Merci, Monsieur Podcara.
D'avoir échangé avec moi sur cette idée de la fête de la gastronomie de Goût de France, et nous aurons sans doute d'autres occasions d'échanger.
Merci.
Ce fut un plaisir également. Merci Sonia.
Merci à vous. Très bonne journée.
Très bonne journée.
Merci beaucoup Sonia pour ce bon moment. Pour les prochains épisodes, nous aurons dans le désordre Que fait-on au jardin en ce moment, avec une de mes recettes et une poésie, qui ne sera pas de moi. Je recevrai Fanny Ray de l'auberge de Saint-Rémy-de-Provence, la chef qui monte. Je recevrai aussi Sabine Brochard de Vert Divin, un restaurant à vin à Orléans, et beaucoup d'autres belles personnes dont je vous parlerai plus tard. En attendant, continuez à manger avec plaisir et modération. Je vous remercie infiniment d'être à l'écoute de notre podcast. Merci à vous et à très bientôt pour l'épisode 9. Nous retrouvons la musique que Sonia Sadi aime.